Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes en direct dans le studio de Radio Panique à Bruxelles. Je suis Mohamed. Je vous présente une émission de la rédaction qui va durer une heure. C'est Panique sur la ville. Le thème est une rencontre avec le réalisateur et les acteurs du film Le Prix du Pain. À la régie, Arthur, les animateurs, moi, Naziha et Bérangère. Autour de la table, nos chers invités, Yves, Laetitia et Geneviève. Avant d'interroger nos invités, on va d'abord présenter les animatrices Naziha et Bérangère. Voulez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Je m'appelle Naziha, j'habite à Bruxelles et voilà, je suis contente de participer ce soir à cette émission.
Bonsoir, moi c'est Bérangère. Je suis très contente aussi, j'ai rencontré Mohamed ce matin et c'est très chouette.
Et pour nos chers invités, voulez-vous vous présenter?
Vas-y, commence, Geneviève.
Moi, je suis Geneviève. Je suis une des protagonistes, on dit, du film qu'il va réaliser il y a 10 ans maintenant. Et c'est un film qui m'a beaucoup aidée. Et voilà, enfin, on en parlera après.
Ah ben, moi, c'est Laetitia. J'ai aussi joué le jeu comme jeune il y a quelques années et je suis bien contente d'être là vu que l'aventure du Prix du Pain, ça fait déjà 10 ans et 10 ans qu'on le suit un peu partout et qu'on se rend compte que c'est bien que ça suive à vie. C'est...
Voilà, donc moi, je suis Yves Dorme. Je suis le réalisateur du film, du film documentaire.
Et quelles sont vos activités ?
En ce moment, je suis en train de préparer. Je fais des films régulièrement, des films documentaires et du montage. Et voilà, donc tout simplement.
C'est quoi le réseau wallon qui lutte contre la pauvreté?
Le réseau wallon, c'est une ASBL qui se trouve à Namur. Et en fait, on est une ASBL qui regroupe, je crois que c'est 45 autres ASBL qui. Autres ASBL, membres qui luttent tous contre la pauvreté. Le but du réseau, c'est de prendre la parole des personnes qui vivent la précarité, de trouver les mécanismes qui appauvrissent les gens et d'aller les expliquer aux politiques pour retrouver des solutions aux problèmes que ces gens vivent. Parce que la pauvreté est fabriquée, contrairement à ce qu'on peut croire.
Comment êtes-vous financé?
Alors, par rapport, il y a deux choses. Hein. C'est par rapport au film, au film documentaire. De toute façon, il y a deux ou trois guichets où on peut aller chercher de l'argent pour pouvoir faire des films. Donc, qui sont la commission film et des ateliers ici. Moi, c'était pas celui de Bruxelles, mais celui de Wallonie, de Liège. Et voilà, quoi. Donc, à partir de là, c'est surtout par rapport à la thématique du film que ce film a été subsidié, quoi.
Oui. Qui sont vos partenaires?
Comme c'est des projets personnels, j'ai pas vraiment de partenaire, mais disons qu'ici, comme je voulais faire un film qui était sur la thématique de la pauvreté, justement, je me suis dirigé vers le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, en discutant. C'est à partir de là que les choses se sont mises en place avec le réseau, en fait. Puisque je me suis dit d'abord, avant de commencer le film, faut que je rencontre des gens, il faut que je vois un petit peu ce qui en est, et surtout d'être confronté à la réalité et pas simplement à une idée préconçue qu'on a de. Puisque moi, je suis pas dans le cas, donc je ne suis pas dans la précarité, donc je me suis dit, il faut que je me tourne vers des gens qui la vivent et qui puissent m'en parler. Et donc, je me suis dit, je vais tout simplement. J'ai tapé pauvreté sur Google. Je suis tombé sur le réseau. Et puis, disons que l'aventure a commencé comme ça, quoi. J'ai téléphoné et puis j'ai rencontré Christine Mailly, qui est la présidente, la secrétaire du réseau. Et voilà, et après ça a démarré, j'ai pu ainsi rencontrer des gens, et dont Geneviève et Laetitia, qui faisaient partie aussi du réseau à ce moment-là.
Le tournage a duré quand même quelques temps, hein. Je ne sais pas exactement combien de temps, mais enfin plusieurs périodes. Et enfin, c'était une très chouette expérience. Enfin, moi, je l'ai très bien vécu. Et la manière que Yves a montré le film, je me reconnais totalement. Enfin, je suis moi dans ce film et c'est un vrai film documentaire. Je ne pensais pas que je pouvais me reconnaître comme ça, et c'est très impressionnant. Et à la fois, la force du film, c'est dénoncer ce qui se passe, enfin, montrer à des gens qui ne savent pas comment on vit, comment ça se passe. Et d'une autre manière, c'est de dire aux gens qui vivent la même chose, je ne suis pas seule, et ça rassure aussi. Donc ce film a tout le pouvoir, quoi. Donc les consciences, quoi. Ça travaille les consciences, et je crois que c'est là qu'il faut commencer pour changer le monde.
Qui sont vos avez-vous des obstacles?
Des obstacles ici, je dois franchement avouer que ça a été plutôt le contraire. On a eu, pour ce film-ci, j'ai trouvé beaucoup de personnes qui ont voulu, qui ont ouvert leurs portes. Et donc ça m'a quand même pas mal surpris, parce que c'était pas évident. Quand on filme des gens qui sont en situation de faiblesse, d'une certaine façon, parce que vivre dans la précarité, c'est aussi se sentir faible, je pense, par rapport à pas mal de gens dans la population. Et c'est aussi avoir le regard aussi des gens qui sont toujours tournés vers soi, qui est un regard un peu, bien souvent, pas toujours, mais parfois méprisant. Donc j'étais quand même surpris aussi que justement des personnes acceptent, je dirais, de pouvoir justement montrer leur faiblesse pour pouvoir que les gens puissent prendre conscience de ce que c'est. Enfin, ça, là, je récupère ce que Geneviève a dit. C'est évidemment pour essayer de se rendre compte de ce que c'est réellement vivre la pauvreté, mais dans le quotidien.
C'est plutôt démontrer la force qu'on doit déployer pour vivre quand on est pauvre. Et ça, il le montre bien. Enfin, il y a des paroles trash. Enfin, je pense au gamin, là. Enfin, je le vois, il dit, oui, j'ai pleuré, beaucoup pleuré. On sent que ça vient de loin. Enfin, il y a des phrases comme ça qui sont encore dans ma tête, comme Guy qui parle de ses rêves. Il faut surtout s'accrocher à ses rêves. Et ça, c'est une phrase qui me sauve encore maintenant, quoi. C'est des mots, des phrases qui me portent.
Pouvez-vous parler de vos actions passées et à venir?
Oui, hein, si je voulais parler d'action, il y en a une. Si vous voulez parler d'action, il y a une super action qui est en place actuellement, c'est le statut cohabitant. Je ne sais pas si vous connaissez le statut cohabitant et la problématique de celui-ci. Donc nous, on fait une grosse campagne cette année pour la suppression de ce statut. Donc il y a même un site où on peut... 1, 2, 3... Aidez-moi.
signer
la pétition pour supprimer le statut cohabitant. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à aller sur le site. Donc, à mon avis, c'est stop au statut cohabitant. Vous allez facilement le trouver. Vous signez. Et au plus, on sera au plus vite. On espère que la prochaine législature, le statut cohabitant tombera. Voilà, c'est un de nos souhaits. Alors, j'ai aussi l'envie de vous inviter ce 26 janvier, donc c'est jeudi prochain, au vœu du réseau Allons lutter contre la pauvreté, qui se déroulera à Namur, place de l'Ange. Et cette soirée, ça commence à 16h. Et le thème, c'est le statut cohabitant, donc la suppression. Et aussi un nouveau travail qu'on va travailler cette année, c'est le pacte logement-énergie. C'est un travail qu'on commence avec les politiques... Wallonne, voir un peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider les familles à avoir des logements corrects, ne pas avoir des passoires à la place, que les gens sont malades à cause des logements et que la problématique du logement touche un peu toutes les sphères. Ça touche au travail, ça touche à la santé, ça peut toucher à la famille. Le logement, c'est important. Et je pense qu'il faut vraiment que les politiques se rendent compte qu'avoir un bon logement, c'est avoir une vie saine, c'est pouvoir donner plus de soi-même à la société aussi. Donc, c'est un investissement.
Un petit peu en retard, mais je voulais te dire, Jeunesse, c'est donc plateforme stop au statu quo habitant. Merci. Et je trouvais que tu avais été un petit peu vite, parce que est-ce que les gens connaissent le statu quo habitant ?
Vas-y, explique-nous.
Et donc, au lieu de l'expliquer, vu qu'on en a beaucoup parlé, je vais vous sortir un petit texte que j'ai écrit il y a quelques années pour le réseau et qui en parle un petit peu. Et donc, sur le coup, vous allez avoir droit à une petite histoire, l'histoire des trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui rêvaient chacun de leur habitation selon leur envie et leur aspiration. Le premier, une yourte à fait montée, car amoureux de l'habitat léger. Le second part dans un petit chalet, le camping au calme lui plaît. Le troisième opte pour une maison classique, en ville c'est plus pratique. Tous trois vivaient heureux et sans souci, quand le grand méchant loup un jour surgit. Il se présenta à la yourte et dit au premier petit cochon « Vous n'êtes pas dans les normes et réglementations. Trouvez vite des solutions, vous ne pouvez pas vivre dans ces conditions. » Quand le grand méchant loup revint mettre sa belle yourte à terre, le petit cochon partit avec ses affaires et rejoint le chalet de son frère. L'endroit n'était pas fait pour y vivre à deux petits cochons. Le frère n'a pas eu le droit de mettre sa domiciliation. Faute d'espace suffisant, l'agent de quartier a dû dire non. Et le grand méchant loup de nouveau surgit et leur dit « Vivre en camping comme cela n'est plus autorisé. Va falloir vous en aller, trouver un logement de meilleure qualité. » Quand il revint les jeter dehors et mettre le chalet à terre, les deux campagnards partirent en ville chez leurs frères. Tout allait bien pour les trois petits cochons, ensemble à trois dans la maison. Mais un d'eux perdit son emploi, le second aussi. C'était pas la joie. À nouveau, le grand méchant loup surgit et leur dit « Vous voilà sous le statut cohabitant en tant qu'allocataires sociaux. Moins d'argent, juste le temps que vous vous remettiez au boulot. » Quand il revint avec le huissier pour saisir à tous trois leurs affaires, les trois petits cochons n'eurent plus d'autre chose à faire que de dormir sous des cartons à même la terre. Et si le grand méchant loup encore surgit, la seule chose qui resterait à leur prendre, c'est leur vie. Ainsi moururent un à un les trois petits cochons, loin de leurs rêves et sans habitation, sous le regard étonné des méchants loups qui n'ont pas compris que tout ça, c'est fou.
Merci beaucoup.
Bravo.
Alors, je me suis permis de vous lire parce que justement, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour parler du statut cohabitant. Ce statut provisoire qui nous est arrivé il y a plus de 40 ans déjà et qui est même condamné par l'ONU, dit que si les personnes résident sous le même toit, donc pas spécialement en couple, mais sous le même toit, sous la même adresse, et sont bénéficiaires d'une allocation de remplacement, que ce soit le chômage, la mutuelle, le revenu d'intégration sociale, les allocations d'invalidité aussi. Bien, à partir de ce moment-là, la personne qui justement est le plus en difficulté, n'a pas de travail, voit son allocation diminuer quasi de moitié. Ben, c'est ça le statut cohabitant. C'est quelque chose qui appauvrit des milliers de familles depuis des décennies.
Merci pour cette information, on a vraiment appris quelque chose. Et comment vous avez fait pendant le Covid pour filmer et faire ce beau travail?
C'était avant le Covid, parce que
il y a 10 ans, c'est vrai. Oui.
Et donc le Covid, par contre, ça c'est encore une autre affaire, c'est que là j'avais commencé un film pendant le Covid, que j'ai dû m'arrêter simplement et j'ai dû mettre à la poubelle ce que j'avais fait, puisque tout le monde avait changé, quoi. Mais bon, ça, c'était pas encore trop grave par rapport, je pense, à d'autres personnes qui ont vécu des choses beaucoup plus complexes et difficiles.
Nous, au réseau, on a imaginé... Enfin, on l'a fait, on est resté en contact avec... En fait, le réseau est associé à des personnes... qui vivent la pauvreté ou en tout cas ont envie de militer pour que ça cesse. Tout ce qu'on appelle les témoins du vécu militant. Et je crois que j'ai... les témoins du vécu militant, voilà. Et sur quoi j'en étais maintenant, je ne sais plus ce que je disais.
Sur le fait que pendant tout le confinement,
ah oui, par rapport au
vous avez gardé
oui,
les liens.
On a gardé les liens avec les témoins du vécu militant, par téléphone, par vidéo. Enfin, on s'est arrangé aussi pour que les gens qui n'avaient pas d'internet ou d'appareil pour regarder, on leur a fourni des ordinateurs pour qu'ils puissent rester en contact. Et je pense que ça a aidé énormément les témoins du vécu. Enfin, voilà, c'était très dur. Mais on a réussi à maintenir le lien, en tout cas, ce qui était le plus difficile pendant cette période-là.
Et moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez gardé un souvenir après ce travail, enfin, pendant ce travail ou...
Moi, ce que je pense que je me souviens le plus, c'est un peu je dirais, on peut parler d'amitié finalement qui s'est nouée à travers mm-hmm. le tournage. Ça c'est une chose, mais je pense surtout d'avoir pu, je dirais, je crois que la difficulté qu'on a, c'est de rencontrer des gens d'univers différents. Et parce que si on regarde comment on est, en fait, souvent quand j'essaye de voir en fait quelle est ma géographie quand je suis, par exemple, si je vais passer un mois, je me dis géographiquement où ai-je été. Et quand je dis géographiquement, c'est pour voir un peu comment je me situe, qui je vais voir, etc. Et de se faire aussi une espèce de géographie sociale. Est-ce que je rencontre seulement des gens qui sont comme moi, ou est-ce que je rencontre aussi des gens qui sont différents de moi? Et je trouve que justement, ce souvenir que j'ai du film, c'est vraiment ça, c'est d'avoir pu se connecter, alors que finalement, bon, c'est à travers évidemment le film que ça s'est fait, puisque j'avais un but entre guillemets en allant rencontrer les autres. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est d'avoir pu quand même nous connecter et d'avoir pu vivre des choses ensemble.
Et comment peut-on vous rejoindre?
Oui. Comment peut-on vous rejoindre?
Rejoindre.
Votre email.
Ah, rejoindre moi?
Non, votre
réseau.
Le réseau peut-être.
Ah oui.
Ah, c'est pas la même chose.
Hein. Bah,
le réseau, c'est facile.
Bah, le réseau.
Parce que le réseau.
Le réseau wallon de lutte contre la pauvreté se trouve à Namur, rue Marie-Henriette au numéro 12. Et il y a un numéro de téléphone qui est le 0476 96 95 26. Il y a le site aussi du réseau wallon de lutte contre la pauvreté où vous pouvez retrouver notamment le prix du pain, mais plein d'autres informations liées aux politiques sociales qu'on mène avec le réseau.
Okay, ça va. Et maintenant, on va entendre la chanson sous-titre Un peu d'espoir. Le chanteur est Joyce Jonathan.
Un peu de gris dans le ciel, un peu de gris en nous. Plus de bonnes nouvelles qui viennent enfin nous mettre debout. Plus le temps de sourire, la fatigue prend le devant. Les crises de rire appartiennent à un autre temps. Les années filent, 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 nous laissent seuls démunis. La maison, elle se vide et les parents sont plus d'ici. Mais allez, un peu d'espoir, ce n'est pas fini. La vie commence peut-être tard, mais n'est pas tombée dans l'oubli. Plus d'intérêt, plus d'effort pour un plus grand départ. Parce que cet inconfort-là, il nous met en retard pour plus tard. Pour plus tard. Nuance de couleur vient éclairer nos vies. Adieu les pleurs, ce temps-là fini, on sourit. Maintenant du courage, de la force pour se maintenir. Une rechute, vite, il faut se ressaisir. Puisque les années filent et filent et filent et filent, nous laisse seuls ou démunis. La maison, elle, elle se vide et les parents sont plus d'ici. Mais allez, un peu d'espoir, ce n'est pas fini. La vie commence peut-être tard, mais n'est pas tombée dans l'oubli. Plus d'intérêt, plus d'effort pour un plus grand départ. Parce que cet inconfort-là, il nous met en retard pour plus tard. Plus tard, pour plus tard, pour plus tard. Mais allez, un peu d'espoir, ce n'est pas fini. La vie commence peut-être.
Ok, alors on va reprendre et on a une nouvelle question encore un peu décalée, mais pourquoi ce titre ?
Alors le titre c'est assez simple parce qu'en fait, je n'avais pas encore... En fait l'idée du film est venue avec le titre, c'est-à-dire que j'étais dans la voiture et j'écoutais la radio et il y a une ministre... à l'époque, qui avait déclaré que le prix du pain allait être libéralisé. Et sur le moment, je me suis dit, là, on touche à quelque chose d'essentiel, surtout pour la Belgique, c'est vraiment un aliment de base, hein, le pain. Et en me disant, ben, très certainement que le prix du pain allait effectivement augmenter, donc ça allait avoir un impact pour les personnes qui ont peu, quoi. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, en tout cas au niveau du prix du pain, puisqu'on a vu qu'il a explosé, un peu comme les prix de l'énergie, même avant la crise énergétique qu'on vit maintenant. Mais dès qu'on a commencé à libéraliser le prix de l'énergie, on l'a vu grimper. Donc vraiment, le titre du film est venu de ça, du prix du pain. Parce que je me disais aussi, effectivement, qu'on touchait à quelque chose d'essentiel pour pas mal de gens dans la population, quoi.
Oui, le pain, c'est très symbolique aussi. Par contre, moi, j'étais fort touchée par un moment dans le film, tu dis, par rapport au Kellogg's, le prix des Kellogg's.
C'est fou,
et je me suis dit que ça aurait pu aussi être un bon titre.
Oui, c'est vrai.
Mais ça, ils ont été libéralisés depuis longtemps. mais donc, c'est quoi la pauvreté et quels sont ces différents types, si on peut répondre à cette question?
Ça, je vais plutôt laisser parler. Mm-hmm.
La pauvreté, c'est des manques de tout au quotidien. C'est un manque d'argent, c'est un manque de soutien autour de... C'est des manques multiples.
C'est se retrouver dans une sorte de survie où on est tout le temps en train de puiser dans ses propres ressources en énergie personnelle pour faire les choses banales, comme aller faire ses courses. Ben, quand on est vraiment en précarité et qu'on a peu, ben, on doit passer par les colis alimentaires, les épiceries sociales. Mais pour ça, il faut une attestation qu'il faut aller chercher à tel ou tel endroit, à telle heure, pour aller chercher un colis à tel endroit, à telle heure. Ben, des heures qui ne collent pas forcément avec la réalité de la vie du ménage ou des enfants, etc. Et qui font qu'on n'a aucune maîtrise sur ce qu'on reçoit. Parce que c'est un peu ça aussi, l'aide alimentaire, c'est qu'on a intérêt à tout savoir cuisiner, parce qu'on peut recevoir de tout et de n'importe quoi. Et bon, tout alors prend une dimension, mais dingue. C'est vraiment ça, c'est une survie épuisante au milieu de la survie.
C'est le mental qui fonctionne 24 heures sur 24. Qu'est-ce que je vais mettre sur la table ce soir pour manger? Comment je vais mettre de l'essence dans ma voiture? Merde, la main a cassé ses chaussures. Comment je vais faire pour trouver des chaussures? Et ça s'arrête jamais. Le chien qui est malade, tant pis. Je sais pas aller chez le vétérinaire. Enfin, tout est compliqué. Il n'y a pas de choses faciles quand même.
Il faut être très, très débrouillard. Charge mentale énorme. Peut-être celle-ci plutôt pour Yves, qui aurait comment tu aurais identifié les besoins de personnages ou les différents personnages du film?
Ben, ce qu'il y a, c'est qu'au départ, j'ai rencontré plusieurs personnes, évidemment. Et je l'ai fait au feeling, quoi. Parce qu'avec Geneviève, on avait discuté une fois au réseau. Puis avec Laetitia aussi. Et puis je voulais des personnes différentes. Je voulais aussi des situations différentes. C'est pour ça qu'il y a un jeune, il y a quelqu'un qui est près de la pension. Il y a une famille avec plusieurs enfants, une famille avec un enfant. Je voulais vraiment aussi qu'on voit les choses sous différents angles, en fait, à travers les personnages, quoi. Et donc ça s'est fait un peu, je dirais, de façon naturelle. Et il y a que le premier qui, lui, c'était assez amusant d'ailleurs, puisqu'en fait j'étais en tournage déjà pour le film. Et j'allais filmer en train, et donc je me suis assis parce que le train était en retard. C'était
en retard.
Et c'était une petite gare, et je me suis assis à côté d'un couple de jeunes. Et comme j'avais mon matériel, on a commencé à discuter. Et le gars justement a dit, mais ça c'est incroyable parce que moi je vis dans un camping avec ma copine. On est vraiment. Quand on parle de précarité, ils étaient dedans aussi. Et donc voilà, ça s'est noué comme ça.
Ok. Et je
permets de faire un hommage à Guy qui est là, est parti. Oui. Qui a...
Notre plus aîné de la vidéo.
Le plus aîné.
Il y a quelques années. Ouais. T'as vu, Messi.
Un petit hommage pour lui.
Ouais, justement, on avait plus de questions pour ça. Pourquoi vous avez choisi ces profils pour passer votre message ces profils variés, du coup?
Ben, en fait, moi, ce que je voulais surtout, c'était... On vient justement de parler de ça, de cette course pour chaque euro. Et donc, je voulais plutôt que de faire un film discours, entre guillemets, sur la pauvreté, ce que c'est que la pauvreté, etc., c'était pouvoir avoir un moment où on prenne du temps pour se mettre près des gens, en fait. Et pour essayer de passer un moment avec eux, en fait, et de mieux se rendre compte de ce que c'est. Voilà. Et donc, à partir de là, c'était important que ça soit varié, parce que chaque situation demande des choses différentes, en fait. Enfin, demande avec toujours la même motivation, globalement.
Oui, et puis, je veux dire, t'es quand même balèze dans le genre de questions que tu nous posais. Enfin, la trame que tu nous as fait suivre, on était à l'aise aussi dans ce que tu nous disais de faire, ou enfin, en tout cas de faire devant toi. Et c'est vrai qu'il y a plein de moments, moi, je me souviens vraiment pas d'avoir été filmée, quoi. Ils faisaient des blagues. Il y a la caméra qui était là, on croyait qu'elle tournait, mais elle tournait pas. Puis il y a des fois, elle était là, elle tournait, mais ils disaient pas qu'elle tournait.
Ça, t'as raison.
Et c'était très chouette. Enfin, le résultat, en tout cas, est magnifique.
T'as bien raison, et je te rejoins là-dessus. Moi, ça m'avait impressionné aussi, parce que j'étais quand même fort jeune quand j'ai dit OK pour jouer l'aventure. Mais c'était pas intrusif, et au bout d'un moment, très court, on aurait dit que c'était un ami qui était à la maison. Et donc, ça s'est passé, mais ça s'est passé crème. Et
je crois qu'on sent,
c'est une belle aventure.
On sent ça très fort dans le film. Et on se sent très proche aussi, du coup. Et peut-être, qu'est-ce qui est commun entre ces différentes histoires?
Bah, y a quand même une histoire commune, c'est qu'il y avait, quelque part, tout le monde était passé par la rue, d'une façon ou d'une autre. Et donc, comme on fait des films d'habitude pour la dramatique, puisque le cinéma, c'est de la dramatique, et il faut qu'il y ait un drame, en général, on prend des gens qui vont tomber dans la pauvreté, entre guillemets, où on essaye de jouer sur cet aspect en disant « Ouh là là, attention !» Et donc je me suis dit que c'était peut-être intéressant d'inverser le propos, puisqu'ici, c'était des personnes qui avaient été à la rue ou qui avaient été en contact avec la rue et qui remontaient, entre guillemets. Donc c'était comment on arrive à se réintégrer, je dirais, dans la société à partir de là.
Ou à pas tomber plus.
Et
en 10 ans, on n'est pas retombé.
Oui. Vous avez commencé le film par « Quand le prix du pain augmente ». Qui sont ceux-ci? À qui vous adressez?
Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis dit... En fait, ce qui est très difficile, je pense, c'est qu'on délivre, je dirais, comme il y a... Effectivement, on est quand même dans un état où il y a des choses qui sont faites pour les gens qui sont dans les difficultés, dans la pauvreté. Donc, on dédie quelque part, on met ça dans un coin, et si on ne le vit pas, on se dit, ben, de toute façon, il y en a d'autres qui s'en occupent. Et alors, à ce moment-là, quelque part, ben, c'est normal aussi quand on a un boulot, etc., sa famille, enfin bon, voilà. La pauvreté, c'est pas quelque chose qui vient, on en a un peu peur, on n'a pas envie de s'en approcher, et on se dit que c'est très bien qu'il y a des gens qui s'en occupent. Et donc, ce qu'il y a, c'est que quand l'histoire du prix du pain, c'est que c'est tellement, ça a l'air tellement infime, en fait, que les gens ne se rendent pas compte des conséquences que cela peut avoir pour d'autres. Et donc, c'est un peu une espèce d'effet miroir pour les gens, en disant, ben, vous voyez, une chose aussi qui semble aussi banale pour quelqu'un, c'est-à-dire si le pain augmente d'un cent ou deux...
3 euros maintenant.
Ouais. Voilà.
C'est vrai qu'on le remarque un peu plus 10 ans après. Quand même.
On le remarque plus. Hein. Ouais.
Est-ce que la pauvreté à Bruxelles et en Flandre est moins forte qu'en la Wallonie?
Mais en fait, je n'affirme pas parce que je ne voudrais pas, mais il me semble que j'ai entendu dire qu'à salaire égal, un Wallon est plus pauvre qu'un Irlandophone, parce que les aides qui existent en Flandre sont... Enfin, il y a la gratuité des bus, il y a des aides au logement, il y a plus d'aides concrètes en Flandre qu'en Wallonie. Et donc, avec les mêmes revenus, un Wallon est plus pauvre.
Oui.
Et les Bruxellois aussi.
Okay. Vous avez représenté un jeune couple, Michael et Elodie, qui vit dans une caravane à Soy. Quelles sont les causes de la pauvreté des jeunes?
Oh là, la pauvreté des jeunes. Bon, déjà, en fait, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on est dans quelque chose d'assez paradoxal, puisque maintenant, il n'y a plus de stage d'attente. Donc, c'est-à-dire, quand on sort de l'école... en fait, si le jeune désire vivre seul, c'est-à-dire quitter ses parents, en fait, il se retrouve sans revenu, donc il n'y a plus qu'une seule porte, c'est le CPS. Et donc, à partir de là, je trouve déjà qu'on est en train de mettre le jeune dans une situation assez dramatique pour lui, puisqu'en fait, déjà, il est dans un cycle où on ne le considère pas comme quelqu'un qui va travailler, en fait. Ou qui va chercher du travail. Et donc, je pense que Laetitia veut continuer.
Bon, je sais que je vais ressortir la même chose, mais cette histoire du statut cohabitant joue aussi sur la pauvreté des jeunes, parce qu'à partir du moment où le jeune est sorti de l'école et qu'il va avoir son accès aux droits tout seul, comme un grand, s'il est encore... chez les parents, ah ben là, le statut cohabitant va jouer aussi. Et donc, ça donne que ben, le jeune, il se retrouve d'entrée de jeu avec un demi-revenu. Et s'il veut se mettre en couple ou être en colocation et qu'il n'a pas de travail, paf, un demi-revenu. Et on se retrouve dès le début à galérer. Et je peux en parler parce que je l'ai vécu à 18 ans et j'ai mis des années à m'en remettre parce que, ben voilà, oui, ça m'est arrivé. Je ne savais pas du tout que ça arrivait, le statut cohabitant. Donc, je suis sortie d'institution, j'ai été remise en octobre. Et j'ai eu le malheur de me mettre en couple et de découvrir qu'on gagnait trop et qu'on ne pouvait pas avoir nos deux revenus d'intégration sociale. Donc sur le coup, comme moi j'avais droit au chômage et que mon compagnon à l'époque pas, ben, je me suis retrouvée moi, entre guillemets, chef de ménage, à avoir le revenu pour nous deux. Et à l'époque, en 2004-2005, se retrouver avec à peine 1000 euros pour deux, je peux vous le jurer, c'est pas un départ de vie qui sert de tremplin, mais plutôt de planche pour plonger dans la précarité les deux pieds dedans, enfin les quatre.
D'après vous, comment s'en sortir de la pauvreté?
Ben, je pense qu'il faut structurellement mettre des choses en place au niveau des politiques, parce que, je veux dire, c'est pas le matin, tu te lèves, ah bah tiens, je vais être pauvre aujourd'hui, je vais perdre mon boulot. Enfin, voilà, il faut quand même être logique aussi dans ce que les gens pensent. On dit c'est des fainéants, c'est des... Non, on est épuisé de trouver des solutions au quotidien, déjà. Et voilà, donc, comment on s'en sort, je pense que... Oui, il faut mettre des choses fortes, prendre des décisions fortes, comme le statut cohabitant, le supprimer. Voilà, l'énergie maintenant, tout le monde enfin voilà, faut que les politiques bougent.
Yeah.
D'une manière ou d'une autre, il faut prendre des décisions, et même si c'est des grosses décisions, il faut qu'ils les prennent pour que ça change, parce que...
Laetitia, tu veux dire quelque chose ?
Je voulais rebondir avec toi, parce que je voyais que... Enfin, ouais, oui. Il y a plein de leviers qu'on pourrait tirer pour sortir de la précarité et de l'appauvrissement, et ces leviers sont déjà un logement décent, un accès à l'énergie, une individualisation des droits. Donc en gros, on supprime le statut cohabitant. Je radote. Il y a énormément de petites fausses comme ça, de leviers qu'on pourrait vous amuser à citer et qu'on a tous rassemblés sur Internet, sur les sites qu'on vous a déjà dit du réseau Wallon. Mais il y a plein de pistes et je suis sûre que vous pouvez en imaginer plein aussi.
Ce que je voudrais rajouter avec ça aussi, c'est que ce qui est difficile aussi, c'est que on est dans une double spirale, c'est-à-dire que les gens qui sont dans la pauvreté, en fait, d'une certaine façon, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas pour l'instant aussi, au sein même, je dirais, de la société, le sentiment de vouloir pousser les gens vers le haut, et c'est-à-dire au sein des familles, au sein de c'est pas évident du tout de se retrouver là, je dirais, dans une dynamique qui redevient positive. Et ça, c'est aussi une question de solidarité entre dans la société même.
Ok, moi, dans un extrait, j'ai vu que vous exprimez Laetitia, Patrick et Morgane librement. Pourquoi avez-vous choisi ces profils et qu'est-ce qu'elle a su exprimer dans cet extrait ?
Ben, je pense, en fait, pour Geneviève et Laetitia, ce qui était intéressant avec Laetitia aussi, c'est que à l'époque, comme tu étais avec ton compagnon qui travaillait, je trouvais ça intéressant. Qu'on voit aussi que c'est pas parce qu'on travaille qu'on s'en sort forcément, hein, que c'est compliqué. Donc vous vous en sortiez, mais c'était pas évident du tout. Donc ça, je trouvais que c'était important. Et puis Geneviève, c'était tout simplement parce que femme célibataire avec enfant, on sait globalement que...
Oui, on va revenir pour Geneviève après. Et pour l'extrait de Laetitia, j'ai vu à la fin que de l'extrait que vous employez la musique de l'art martial, ceci est là pour exprimer la lutte contre la situation, ou quel est le message en fait ?
Ben, l'art martial, c'est parce qu'elle en faisait donc avec son compagnon aussi.
On faisait partie d'une compagnie de reconstitution médiévale, et vu que Yves est venu à plein de moments de notre vie, il est venu aussi à ce moment-là parce que c'était notre loisir. Par contre, on a dû arrêter quelques mois après, parce que qui dit reconstitution dit devoir avoir les sous pour le matériel, etc., ou l'essence pour aller sur les camps. Et donc, dès que ça a été moins bien financièrement, c'est la première chose qu'on a abandonnée. Mais j'ai gardé de cette époque-là ce que tu appelles art martial, le combat au bâton. Ben, moi, je l'ai gardé, je l'ai transformé, parce que je me suis rendu compte que ça faisait du bien. Ça faisait du bien physiquement et mentalement. Et donc, même 10 ans après, je le fais encore, mais plus sous forme de danse. Et c'est un de mes trucs les plus précieux, parce que je l'ai construit. Je l'ai reconstruit de la déception d'avoir dû arrêter un loisir que j'aimais, mais en le gardant quand même d'une façon qui ne me coûtait rien.
D'accord, c'est clair. Et une autre question pour toi, Yves. En quoi le profil de Geneviève et ses 5 enfants est-il différent des autres ?
Je crois que ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on est dans un regard assez particulier par rapport aux mères célibataires qui ont, comme elle a 5 enfants. Hein. Les gens ont un double regard, c'est-à-dire, en même temps, on dit, voilà, il y a des problèmes de natalité, il faut des enfants pour les pensions. Et en même temps, si une femme a beaucoup d'enfants, on lui dit, mais enfin, pourquoi t'en as fait autant ? Hein, parce que tu
pour les allocations familiales, c'est bien. Ah.
Voilà la réponse qu'on entend généralement. Et c'est sûr que c'était aussi d'essayer d'aller voir dans ces préjugés-là. Mm-hmm. Hein, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Et parce que au lieu de souvent, quand on parlait de soutenir quelqu'un qui est dans la difficulté, on a tendance même à plutôt l'y enfoncer en disant, mais enfin, qu'est-ce que tu as fait ? Il suffit de faire moins de gosses et tu aurais été mieux.
Oui, c'est ça.
Oui, mais c'est ça.
Oui, je l'ai entendu partout.
C'est dingue, mais à l'inverse, moi j'ai toujours beaucoup souffert qu'on me dise, tu n'as qu'un seul enfant. Et c'est à l'inverse, mais il y a toujours du jugement sur la situation familiale. Et c'est con, parce que quoi qu'il arrive, on n'était pas forcément pauvre au moment où c'est arrivé. Il faudrait arrêter de mélanger pauvreté, nombre d'enfants, allocation, ou un seul enfant, ou pauvreté, parce qu'au fait, c'est des conneries. C'est juste la vie.
C'est vrai. Et Geneviève aborde la question de la mauvaise distribution de biens. Comment ceci est géré?
Comment? J'ai pas compris la question.
La mauvaise distribution du bien.
Les biens. La mauvaise distribution des biens.
Oui.
Et là, il y a le... Ah, pardon. on est sur... Oh, je vais m'excuser auprès du réseau, parce que ça ne va pas bien. je perds la tête. Non, la justice fiscale, on a aussi... on travaille aussi avec la justice fiscale. Et dernièrement, justement, on en parlait, c'est 1% de la population wallonne qui détient la plus grande partie des richesses. Alors que... Une taxation de 1% sur les grosses fortunes suffirait à éliminer la pauvreté. Qu'attendent les politiques pour mettre des choses fortes en place pour ces gens qui ont tellement d'argent, ils ne savent même pas qu'ils l'ont. Qu'on leur retirait 1 million, ils ne verraient même pas la différence. Donc, il faut que ça s'arrête, quoi.
Avec 1 million, ça nourrirait quand même pas mal de personnes à côté.
On voyait aussi que tu participais à un témoignage pour parler de ton histoire. En quelle mesure ceci peut-il être utile et quelles sont les solutions qui ont été fournies pour plus tard?
Par rapport à la situation de... Mais...
Oui. En fait, il y avait un extrait, voilà.
Mes témoignages, je crois que mes témoignages... dans mes témoignages, je pense qu'il y a pas mal de femmes qui doivent se retrouver aussi, enfin dans la même situation que moi. Je sais que je suis pas seule. On est. Enfin, j'ai plein d'amis aussi qui sont seuls avec leurs gosses. Apparemment, c'est comme ça maintenant. Mais la société n'a pas l'air d'avoir compris que c'était un mode de vie qui était choisi aussi. Et je pense qu'il serait temps qu'on se rende compte que ben oui, vivre seule, c'est aussi possible. Oui. Et à deux, c'est possible s'il n'y a pas le statut cohabitant.
Mais en plus de modèles.
Voilà, on est quand même des humains. Enfin, je pense qu'on doit avoir le droit de pouvoir vivre seul, vivre accompagné, vivre avec une femme, avec un homme, avec des gosses, avec un vieux. Enfin, voilà, qu'importe. Je veux dire, la solidarité doit être là.
Le principal, c'est qu'on ait notre droit individualisé, sinon, c'est pas possible.
Une personne est une personne et on n'est pas une demi-personne parce qu'on vit avec. Avec une personne, quoi.
Mais il ne faut même pas se justifier, je pense. Le fait, c'est très personnel.
On a l'habitude de justifier.
Oui, c'est vrai, on est drillé à ça. On est drillé
ça
à
ne regarde personne, hein, les choix personnels. Voilà.
Et bien, c'est un très beau combat que partagent d'ailleurs les écrivains publics. je fais partie, mais on n'y reviendra pas. voilà. Par contre, on va rendre un tout petit peu hommage à Guy, je pense. Qu'est-ce qui vous a touché dans son histoire?
Mais Guy, en fait, au départ, c'est sûr qu'on pense toujours que la pauvreté, c'est pour les autres. Donc, on essaie. Enfin, on aimerait. Par rapport à Guy, en fait, ce que j'ai trouvé touchant, c'est qu'effectivement, il a été indépendant au départ. Et que ben, simplement, son affaire a capoté parce qu'il a été sur une vague qui a été montante dans les années 80. Et puis après, malheureusement, lui n'a pas réussi, je dirais, à changer son commerce ou son type de commerce. Et donc, il s'est retrouvé finalement dans les dettes et il s'est retrouvé à la rue. Et donc, c'était quand même assez, je dirais, impressionnant. Parce que effectivement, c'était de, il avait quand même plusieurs magasins, donc c'était vraiment une rute, quoi, comme retombée. Et donc ça m'a touché parce que en fait, il osait en parler, quoi, aussi. Parce que je pense que bon, après, à un moment, enfin, il fuyait d'abord. Hein, je veux dire, s'il a osé en parler, c'est parce que ça lui était arrivé quelques années avant et que il a vécu quelques années de bonnes galères.
Oui.
Et voilà, et donc après.
J'ai relevé un gars.
Oui. Et donc voilà, mais c'est pour ça aussi que par rapport justement aux personnes, je dirais, choisies pour le film, c'était aussi important d'avoir des personnes qui puissent se regarder, enfin, voir dans quelle situation ils étaient, voir. Et de pouvoir, je dirais, un peu se regarder, enfin, avoir une réflexion par rapport à eux-mêmes et par rapport à la société dans laquelle ils sont. Et parce que souvent, simplement, on parle à leur place, quoi, tout simplement.
Oui, et bon, c'est, malheureusement, on va parler un peu à sa place, parce que... Et qu'est-ce qu'il ressent par rapport à sa situation, ou en tout cas dans le film, qu'est-ce qu'il ressentait ?
Ben, je pense que pour lui, ce qui a été... ben, il est passé par l'alcoolisme, et donc pour lui, ça a été vraiment quelque chose de très dur, et avec lequel après il a dû se battre. Et donc ça, c'est aussi une des problématiques qui s'ajoute très souvent. Mais ça, c'est aussi le fait de passer par la rue. C'est-à-dire, puisque la difficulté de vivre la rue est telle qu'à certains moments, très régulièrement... Pour anesthésier ce qui se passe, on parle...
La première chose à laquelle tu penses le matin, c'est boire pour oublier.
S'anesthésier.
Et donc, voilà, à partir de là, remonter, ça devient vraiment, vraiment, vraiment très difficile. Et je trouvais justement qu'il avait justement, je veux dire, cette force et cette dignité aussi de pouvoir en parler et de vouloir sortir.
Il s'est raccroché à l'art aussi.
Oui.
Je pense que ça, c'est aussi une force pour toute personne, en fait, n'importe qui, aussi bien les riches que les pauvres, mais en tout cas, c'est une force, la culture.
C'était une de nos questions d'après.
Ah,
et avant ça, juste, que représentait sa relation avec son chien ?
Ça va l'air énorme. C'était ses chiens, et j'ai eu la chance d'aller deux fois. Ben, et c'est un peu comme toute personne qui se retrouve un peu coupée du monde, etc. Les animaux, c'est tout ce qu'on a. Ils nous acceptent, pauvres ou riches. Ce qui compte pour un animal, c'est d'avoir un fond dans la gamelle, les sorties, les câlins et l'affection. Et donc, je pense que ces animaux sont devenus, pour tout le restant de sa vie, c'est sa famille, ses confidents et les choses les plus importantes de son univers, parce que c'était le cas.
Vous avez mis la lumière sur les difficultés des démarches à faire et qu'il s'agit d'un chemin à sens unique. Je crois que c'est lui qui le dit aussi dans le film. Hein. Comment ça pourrait être amélioré, ça ?
Ben, je pense que la difficulté, effectivement, c'est la solitude qu'on a et puis le fait de devoir... comment dire ça, c'est complexe de à la fois d'être dans un moment où on sent que les choses sont en train de glisser et qu'on n'arrive plus à s'en sortir, et en même temps de devoir avoir l'énergie et le courage d'aller chercher de l'aide. Et donc ça je trouve que c'est vraiment c'est très difficile pour les personnes. Et donc, c'est d'avoir une structure qui puisse écouter les gens. Et pour l'instant, en fait, ce qui se passe, et ça, on le voit bien, et c'est toute la difficulté qu'il y a en ce moment, c'est que quand on voit toutes les... Quand on parle, par exemple, des CPS, des choses comme ça, on est à un nombre de dossiers par assistance sociale qui est tellement énorme qu'on se demande comment ils peuvent être encore en relation avec les personnes. Je crois que on est aussi dans une société qui a individualisé le fait que quelqu'un en fait est responsable seulement de lui-même. Donc c'est-à-dire s'il a un problème, c'est de sa faute. Et donc on est beaucoup dans ce discours-là et on rabâche très souvent ce discours-là. Et donc à ce moment-là, on ne cherche plus de solutions structurelles au niveau de la société. On se dit, il est tombé, lui à se démerder. Et donc là, je pense que là, il y a déjà vraiment un problème de base par rapport à ça. Et puis, je pense aussi que simplement, quand on dit sens unique, c'est-à-dire que c'est toujours de devoir quémander, et ça, je pense que là, je peux laisser Laetitia et Geneviève en parler, parce que ça, ils connaissent très bien.
Ouais, c'est en fait beaucoup de choses qu'on se doit d'aller demander. Moi, je me rends compte que c'est des droits. On se retrouve à devoir aller quasi se battre pour des choses qui sont des droits de base, hein, des droits de l'homme, comme le droit à l'alimentation. Je ne vais pas tous les citer. Et, c'est à sens unique parce que c'est bizarre. Les droits, ils ne viennent pas vers nous. Pourtant, bizarrement, grâce à l'informatique et à tout ça... on sait de base qui a tel revenu, qui est dans telle situation, mais on doit quand même aller chercher les droits, alors que les droits, ils pourraient venir à nous, vu qu'on sait qu'on y a droit. Ben non, on doit nous trouver l'info. Et bizarrement, l'info, pour la trouver, il faut se lever tôt ou connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est dans une assoce et qui te dit à quoi t'as droit. Une fois que t'as l'info, tu dois aller pousser la porte ou d'un CPS ou d'un bureau, le truc qui fait peur, là, qui est plein de préjugés, où on se dit, mon Dieu, est-ce que j'y ai bien droit? Est-ce que je vais oser y aller? Comment je vais être sûr? Alors donc, une fois qu'on a poussé la porte, il faut réussir à fournir les papiers qui prouvent qu'on a bien droit à ce truc auquel on a droit et que tout le monde sait qu'on a droit. Donc bref, c'est un vrai cauchemar et c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est une perte de temps et d'énergie, mais tout ça genre pour avoir un colis alimentaire, par exemple. Vous imaginez le truc et surtout la dimension... dévalorisation personnelle, parce que pousser la porte du CPS, même si c'est pour son droit à l'accès à l'aide alimentaire, ça fout un fameux coup.
Oui,
tout ça pour un droit.
Vrai. Et en plus, c'est vrai qu'il y a tout ce côté, les gens en difficulté. En plus, on va rajouter une culpabilisation qui est... Enfin, ça, c'est vraiment très prégnant, je trouve. Et peut-être la dernière question qui est la plus large, on va dire. Que symbolise l'art pour Guy dans sa situation? Peut-être on peut... déborder sur vous après. Mais...
Bah, je crois que pour lui, c'était vraiment fondamental de pouvoir justement avoir une porte de sortie quelque part. Et je pense que je crois que c'est pour tout le monde, en fait. Parce que je pense aussi qu'il faut... comment dire ça? C'est bien aussi de ne pas se dire que tout... On parle de différence, etc., et que quand on est dans la précarité, on n'est pas forcément différent des autres. Je veux dire, on a les mêmes envies, les mêmes besoins, et donc il faut aussi se dire qu'il fait de l'art pour lui, mais comme nous aussi, on peut faire de l'art pour nous-mêmes. Enfin, je veux dire, c'est pas simplement la pauvreté qui induit l'art, c'est le fait d'être humain qui induit l'art.
Quelles sont vos conclusions ?
En parlant de culture, je veux faire un petit coucou au Miroir Vagabond qui est ma famille de cœur, on va dire. Parce que quand je me suis retrouvée à la rue, c'est eux en fait qui m'ont aidé à remonter un peu la pente. Et notamment, une de leurs méthodes, c'est la culture. Donc par le théâtre, par la peinture, par... on se remet des réflexions sur nous-mêmes face à l'art. Et ça nous construit, nous. Quand on voit un tableau, chacun le voit à sa manière. Et donc, c'est important de... Je crois que l'art et la culture, c'est vraiment des bases pour se reconstruire.
D'être en plein.
Et donc, moi, si je voulais conclure, c'est un peu ça. C'est en fait en fait, le problème, c'est qu'on aborde très souvent, je trouve, les personnes qui sont dans la précarité avec... en gommant en fait en mettant d'abord la précarité et la personne derrière, et donc en fait c'est ça, je trouve, le vrai problème, c'est qu'en fait au début il faudrait mettre la précarité derrière la personne pour pouvoir la considérer telle quelle.
Moi, pour conclure, je voudrais juste dire que c'est possible de changer les choses, c'est possible d'aller vers une éradication de la pauvreté. Et donc, sur le coup, venez en parler avec nous le 26 à Namur, sur la place de l'Ange, pour les vœux du réseau Wallon.
On arrive à la fin. Oh. Et je veux dire merci à Arthur qui est à la régie et aux chères animatrices Nazira et Bérangère. Et aux chers invités Yves, Laetitia et Geneviève.
Merci à vous.
Oui, merci d'être venu et participer. Et
merci de nous avoir invités.
Oui, de rien. Et je vous souhaite.
Et n'hésitez pas à venir le 26.
Merci. Et je vous souhaite, et aux chères auditrices et auditeurs, bonne soirée et au revoir.
Bonsoir.
Vous écoutez Radio Panique.
Punch is not dead. Radio Panique 105.4 FM.